Vous écoutez
RMC.
Presque 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce matin, ça devient concret. La flamme olympique va s'allumer, la torche va s'embraser en Grèce, dans le berceau de l'olympisme. RMC est sur place ce matin. Après le cinéma et l'armée, la parole se libère à l'hôpital avec de nombreux témoignages de femmes dénonçant les agressions sexuelles et les remarques déplacées dans les hôpitaux. Et puis Paris, le foot, le PSG qui va devoir faire une remontada ce soir 21h en quart de finale, retour de Ligue des Champions à Barcelone.
Et puis ne manquez pas à 8h30 deux invités pour revenir sur le terrain, une juge et un maire. La juge, c'est Béatrice Brugère. Le maire, c'est le maire de Viry-Châtillon, là où Shamseddine, vous vous en souvenez, a été assassiné il y a 2 semaines pour avoir échangé avec une jeune fille. Le ministre de la Justice veut durcir les sanctions, à la fois contre les jeunes, mais aussi contre leurs parents. La réaction et le récit de ces deux acteurs de terrain, la juge et le maire, c'est donc à 8h30. C'est un peu le début des Jeux Olympiques ce matin.
Oui, à moins de 100 jours. Hein. C'est en fin de matinée que la flamme olympique sera allumée dans la plus grande tradition à Olympie en Grèce. Et alors dans le berceau de l'olympisme, vous êtes Julien Richard pour RMC.
Oui, sur les ruines du temple d'Héra, vieux de 2600 ans, site des premiers Jeux Antiques. À 11h, comme le veut la tradition, la grande prêtresse tendra un flambeau face à un miroir parabolique et les rayons du soleil feront jaillir le feu olympique.
L'allumage de la flamme, c'est là où tout commence.
Alain et Jean-Michel ont spécialement fait le déplacement de Bretagne.
L'allumage de la flamme à Olympie, ça a une valeur symbolique forte auquel nous, on voulait absolument assister.
On porte les valeurs à la fois de l'Olympie et puis on les valeurs de la France.
Une cérémonie qui fait la fierté des Grecs.
La paix pour tout le monde.
Angelo, 80 ans, né à Olympie.
Pas les guerres. Rien du tout. And this is the history.
C'est l'histoire. L'esprit de la flamme, c'est la paix. C'est l'esprit olympique.
This is okay, the Olympic spirit.
La flamme, symbole de la trêve olympique, souhaitée par le président du Comité international olympique, Thomas Bach.
On vit des moments très difficiles dans le monde. C'est pourquoi nous espérons que cette cérémonie va inspirer les responsables de se souvenir de la trêve olympique.
Et autre symbole à la fin de la cérémonie, un premier relayeur grec transmettra la flamme à Lorma Manodou, championne olympique du 400 mètres nage libre il y a 20 ans à Athènes.
Alors la flamme va sillonner la Grèce pendant 10 jours avant d'embarquer sur le Bélème en direction de Marseille où le relais de la flamme olympique va commencer le 8 mai. Et à Paris le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture est bien prévue sur la Seine, insistent les organisateurs, même si Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a évoqué hier matin sur RMC des plans B et C au Trocadéro et au Stade de France en cas de menace terroriste. Il est 8h03 sur RMC. Et la parole donc se libère à l'hôpital, après le cinéma et l'armée. C'est donc dans le monde hospitalier que des voix s'élèvent pour dénoncer les agressions sexuelles et les remarques déplacées avec, comme à chaque fois, le hashtag MeToo. Les soignantes que vous allez entendre avec Johanna Chabas pour RMC évoquent une omerta dans un milieu toxique.
4 ans après, Marie se souvient très bien de son début de stage dans un service de chirurgie à Paris.
Il y a un médecin, un supérieur hiérarchique qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement. Je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Après les paroles, s'en est suivi des gestes. Il me claquait la cuisse, me touchait le dos par surprise le matin pour me dire bonjour en disant « mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas ».
Autre témoignage, cette stagiaire qui préfère rester anonyme. Pour elle, l'omerta est toujours trop forte.
C'était des remarques, des placé, sexiste, en mode vous devriez ouvrir plus votre blouse. C'est difficile de réagir en tant que stagiaire. On est tout le temps évalué. Pour être évalué que ça se passe bien, il vaut mieux rien dire.
Selon Anna Boctor, vice-présidente du syndicat des jeunes médecins, le milieu hospitalier très hiérarchique est propice à cette violence.
Les postes à pouvoir, comme les professeurs universitaires, sont majoritairement occupés par des hommes, donc à 80%. Et en fait, ces personnes qui ont les pleins pouvoirs vont se protéger, vont se couvrir et qui fait que forcément, les premières victimes sont des femmes.
Elle encourage les victimes à prendre la parole. Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris a ouvert un appel à témoignages.
Une nouvelle opération contre l'insécurité et l'immigration clandestine lancée ce matin à Mayotte. On l'a appris il y a quelques minutes, un an après une première opération de ce type. 1700 policiers et gendarmes vont être mobilisés jusqu'à la fin du mois de juin. Des réactions ce matin au projet de loi du gouvernement qui veut durcir les sanctions contre les mineurs délinquants, mais aussi contre leurs parents, jusqu'à 3 ans de prison, par exemple, au lieu de 2, pour ceux qui se soustraient à leurs obligations. Tout ça dans la foulée des agressions de Montpellier, Viry-Châtillon, Romans-sur-Isère, c'était la semaine dernière, des agressions qui, à chaque fois, impliquer des adolescents. Mais c'est de l'affichage et ce n'est pas la bonne méthode, dénonce ce matin Kim Reflet, la présidente du syndicat de la magistrature.
Ce n'est pas en culpabilisant les parents, en les sanctionnant financièrement, qu'on va les restaurer dans leur capacité à faire autorité sur leurs enfants. Ça n'est pas du tout dissuasif pour les enfants qui n'ont pas en tête les règles de responsabilité parentale avant de commettre des délits. On sait que ce qui fonctionne, c'est l'éducatif, que l'éducatif, c'est du temps long, de l'insertion, donc des investissements très coûteux. Le gouvernement, eux, ils veulent clairement afficher un visage de fermeté. Ce qu'on sait, nous, comme professionnels, c'est que ce sont des solutions qui ne fonctionnent pas.
Écoutez ce chiffre ce matin, 36 millions et demi d'euros. C'est pas le jackpot de l'euro-million, c'est le salaire que devrait toucher Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. L'assemblée générale des actionnaires du groupe est convoquée aujourd'hui, notamment donc pour voter cette rémunération. Pendant ce temps, les salariés ont reçu une prime d'intéressement qui a été revue à la baisse cette année. Ça grince forcément dans les usines, à Marion Gauthier.
C'est l'écart de rémunération entre le patron et ses salariés qui dérange Jérôme Boussard, le secrétaire général CGT de l'usine de Sochaux.
Quand on voit que M. Tavares va toucher 100 000 euros par jour et qu'il continue à casser les emplois et à mettre en concurrence les salariés à travers le monde chez Stellantis, c'est complètement indécent.
Sans parler des dernières négociations salariales, les augmentations ne sont même pas au niveau de l'inflation, regrette le délégué central CFDT Benoît Vernier.
Le problème pour nous, il est dans la cohérence. Chaque jour, on nous demande de la frugalité. On a des problèmes de toiture qu'il faut réparer, c'est la croix et la bannière pour avoir les investissements. Dès qu'il faut sortir un euro, il faut batailler.
Mais certains élus nuancent et justifient hors micro la rémunération de Carlos Tavares, qui a sauvé l'entreprise PSA du naufrage, rappelle Christian Lafaye, un ancien syndicaliste force ouvrière tout juste retraité.
Pour moi, Carlos Tavares, c'est le Mbappé de l'automobile. Si on veut un grand capitaine, oui, ça se paye. Maintenant, 36 millions, bon, c'est démesuré. Si c'était 10 de moins, ça serait peut-être plus audible.
Il s'insurge plutôt des milliards reversés aux actionnaires. Tavares, lui au moins, dit-il, il bosse.
8h06 sur RMC, c'est une longue journée qui commence pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendent avec impatience le quart de finale retour de Ligue des Champions ce soir, 21h, à Barcelone, et qui espèrent un grand Kylian Mbappé pour remonter la défaite 3-2 du match aller.
Tout le monde attend vraiment un coup de magie de la part des Parisiens, notamment d'Mbappé.
Les matchs comme ça, c'est les seuls matchs qu'il attend.
Qu'il laisse quelque chose qui marquera à jamais son passage. C'est maintenant ou jamais, on a donné le meilleur de nous pour la suite.
Maintenant ou jamais, voilà ce que disent les supporters. Il y en aura 3000 ce soir au stade Montjuïc de Barcelone. Les ultras sont partis hier soir de la capitale. Ils ont roulé toute la nuit en direction de la Catalogne, où vous êtes déjà en direct ce matin, Arthur Perrault pour RMC. D'ailleurs, les joueurs du PSG sont surpris d'un tel soutien de la part de leurs supporters.
Oui, c'est un voyage important aussi pour les fans parisiens. Le parcage visiteur du stade de Montjuïc de Barcelone sera complet. Parmi ces 3000 supporters présents, 1500 membres du collectif Ultra Paris. Mais avant, les fans du principal groupe de supporters ont un véritable périple à boucler. Environ 14 heures de bus. Ils sont partis hier soir à 20h30 du Parc des Princes, arrivés espérés vers 10h dans le centre-ville de Barcelone. Au programme pour eux, récupérer leurs billets avant un rassemblement qui s'annonce bouillant, Plaza d'España. Dans la foulée, un cortège est prévu jusqu'au stade olympique situé sur une colline au sud-ouest de la ville. De quoi impressionner les joueurs parisiens. Le défenseur Achraf Hakimi se dit fier de ses supporters et rassuré de leur présence dans ce match décisif.
Voilà, soirée spéciale pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions sur RMC dès 18h, le match à 21h évidemment sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé. Ce sera pas le seul événement du jour à Barcelone, puisqu'on va revoir Rafael Nadal au tournoi de tennis de Barcelone, l'Espagnol qui fait son grand retour à la compétition, lui qui est blessé depuis janvier et qui rêve de remporter un 15e Roland-Garros.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, côté sport, n'oubliez pas, il vous reste 10 minutes pour vous inscrire et pour gagner jusqu'à il y a 100 places qu'on vous offre jusqu'à demain, 100 places et les 100 meilleures et les 100 dernières surtout pour les Jeux Olympiques. Il y en aura pour la cérémonie d'ouverture, il y en aura pour la finale du 100 mètres, pour le tennis, pour le judo. Et pour ça, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Et il y en a déjà deux, tiens, de ces places-là qui sont à gagner dans 10 minutes en direct sur RMC. Bonne chance à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Emmaüs dénonce la concurrence déloyale des géants du e-commerce. Si rien n'est fait, le site de vente solidaire va disparaître. Voilà l'alerte que vous lancez, Maud Sarda. Vous dirigez le label Emmaüs et vous êtes dans ce studio. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et vous êtes bien sûr à RMC.
Le parti pris.
Bonjour Maud Sardin, vous êtes la cofondatrice et directrice générale du label Emmaüs. Le label Emmaüs, c'est la vente en ligne, qui correspond évidemment au commerce circulaire, solidaire qu'on connaît bien, des compagnons d'Emmaüs. Compagne aussi d'Emmaüs, d'ailleurs, vous précisez, puisque vous dites qu'il y a de plus en plus de femmes. Ce commerce solidaire, il souffre, et il souffre depuis l'ultra développement de la fast fashion, notamment Chine, Temu, AliExpress, et depuis que toute cette mode à 3, 4, 5 euros pour des t-shirts, une mode quasi jetable, s'est développée, les visites sur votre site ont chuté. Il y a un lien direct.
Très direct. Depuis quelques mois, c'est moins 20% de visites sur notre site par rapport à l'année dernière. Le lien, il est aussi par rapport à l'inflation, évidemment. Les temps sont difficiles pour tout le monde. On cherche à acheter moins cher et on cède facilement aux sirènes de ces sites. C'est pas difficile de céder quand on sait que Temu a dépensé 2 milliards de dollars en un an sur les plateformes de Meta. Donc uniquement
2 milliards uniquement 2 milliards. En influence quoi pour essayer
en
de
publicité sur les réseaux sociaux uniquement sur Facebook.
Ouais, évidemment vous avez pas les moyens
Meta, Instagram.
Là-dessus, forcément.
C'est compliqué de lutter.
Comment vous espérez justement d'abord en parlant ici en réveillant en quelque sorte les consciences, mais j'imagine que ça ne suffit pas parce que comme vous le disiez, il y en a qui tout simplement parce qu'ils ont plus de sous se disent un t-shirt à 3 euros, à 4 euros pour mes enfants, pour moi, pour bon, quand vous faites face à ça, vous dites, on a besoin d'outils désormais pour contrer quand même cette fast fashion. C'est quoi? C'est la livraison gratuite? C'est ce marketing? Quels sont les outils? Quelles sont les armes dont vous pourriez disposer?
Il faut que la réglementation soit beaucoup plus sévère, ça c'est sûr. Ça fait des années qu'on assiste à de la livraison gratuite, c'est Amazon qui l'a créé, ça fait 25 ans qu'Amazon montre la voie. Et désormais, depuis un an ou deux, effectivement, des Chines, des Temu ont pris une place gigantesque. Temu, ça fait moins d'un an qu'ils ont débarqué sur le marché français.
Et en un an, ils ont...
Ils ont 13 millions d'utilisateurs en France, en un an. Donc c'est vertigineux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. C'est facile dans ce cas, avec des milliards, de prendre cette place-là. Donc oui, ça suffit. La livraison gratuite doit être interdite. Depuis quelques mois, sur les livres neufs, enfin, il y a un minimum de 3 euros de livraison qui s'applique. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres produits, y compris sur la seconde main d'ailleurs. On peut aussi contrôler ce matraquage publicitaire. C'est pas normal qu'on laisse des plateformes s'emparer comme ça des réseaux sociaux, des influenceurs. On peut aussi avoir des systèmes fiscaux différents. Label Emmaüs a le même niveau de TVA qu'Amazon.
Vous n'êtes pas soulagé de cette TVA alors que vous avez ce rôle social?
En France, aujourd'hui, il n'y a aucune TVA réduite pour le reconditionner pour la seconde main.
Que vous dit le gouvernement?
Rien.
Rien.
Mais le gouvernement ne fait rien ou quasiment rien. La loi anti-fast fashion, c'est un début.
Parce qu'on en a quand même beaucoup parlé ici, on avait l'impression que ça allait changer les choses, non?
La loi anti-fast fashion, déjà, elle n'est pas mise en application.
Elle a été votée, mais toujours pas en application.
Et ensuite, qu'est-ce que ça va concerner exactement? Quels acteurs ça va concerner? C'est encore très flou. Surtout, il y a urgence. Il y a urgence. En moins d'un an, Temu qui s'empare déjà de 13 millions d'utilisateurs, alors que 11 produits sur 12 ont été testés, des jouets notamment, ne répondent pas aux normes européennes.
Oui, parce qu'on parle de Chine, qui est vraiment la mode fast fashion. Temu, on y vend aussi, en effet, comme vous le dites, des jouets, des objets, ce que vous faites aussi, d'ailleurs, évidemment, chez Emmaüs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent? Venez chez nous, quoi, en priorité.
Oui, déjà, venez voir le site, si vous ne trouvez pas votre bonheur, bien
Donnez-moi
sûr.
L'adresse du site.
Alors, c'est labelemmaüs.co.
D'accord.
Et sur ce site, il y a 2 millions de produits qui sont uniques, qui sont tous référencés un à un par des compagnons, des compagnes d'Emmaüs, des personnes en insertion. Ça, c'est important. Il y a des milliers de personnes qui se forment à des métiers en tension avec nous grâce aux achats solidaires. On a 100 000 clients aujourd'hui et ils sont super.
Donc, on va visiter le site labelemmaüs.co. On achète sur le site, on donne aussi à Emmaüs.
Ah oui, ça, il faut continuer à donner puisque c'est tout un modèle solidaire qui ne fonctionne que sur le don matériel. Emmaüs, c'est pas de subvention publique, pas de subvention privée, très peu. Ça fonctionne grâce aux dons et à la revente de ces dons. 500 points de vente partout en France.
Merci d'être venu défendre donc la cause d'Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs, le label Emmaüs.co. Maude Sarda, donc cofondatrice de ce label et directrice générale du label Emmaüs. Il est 8h17 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
tous les jours de manche.
Et Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Et bonjour à tous et bonjour Solène, bonjour Victor,
bonjour
Apolline et surtout bonjour Charles. Ça va Charles? Pas trop tendu? Allez, on souffle.
Il a décidé d'être hyper positif Charles.
Ouais, plein d'espoir.
Ce soir, le PSG qui joue sa qualification en Ligue des Champions. Et Charles est tendu. Tendu comme une chemise de Gérard Larcher après une choucroute. Tendu. Paris contre Barcelone, il y a quand même un petit risque de démontada ce soir. Mais on reste optimiste pour vous, Charles. Oui. C'est un match de gala. C'est un peu le pot de départ de Kylian Mbappé. Alors, il n'arrête pas le foot. Non. Au contraire même. Il arrête juste le foot amateur avant de signer à Madrid. Mbappé qui n'est pas en forme en ce moment. Il se traîne. Il n'avance pas. Avant, c'était le Mozart du ballon rond. Maintenant, c'est Michel Sardou. Le Michel Sardou des surfaces qui marche en rond pendant son... Même démarche que pendant les concerts. On dirait qu'il promène son chien. Il est aussi motivé pour jouer qu'Apolline quand elle doit interviewer Franck Riester ou Olivia Grégoire. Parce que maintenant, vous interviewez Emmanuel Macron, le chef de l'État. Tout paraît fadasse. Pas trop déçu de n'être que devant nous ce matin.
Ah non, je suis contente de vous retrouver.
Modestement. Apolline était donc hier au Grand Palais pour interviewer le président de la République.
Au Grand Palais.
Il était bavard, hein. Vous aviez beau le cadrer, on sentait qu'il voulait dérouler son truc. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on parle de la Seine. Oui, mais avant, je voulais finir sur la construction des infrastructures qui vont rapporter énormément à la Seine-Saint-Denis. Oui, mais la Seine, Monsieur le Président. Attendez, j'aimerais parler des bénévoles qui font un travail extraordinaire. Ils mériteraient presque d'être payés. Oui, mais la Seine. Une interview conduite également. Alors, une interview conduite également par David Douillet, Rémi Boulet et Marion Bartoli qui est intervenue dès le début. Elle a embrayé direct sur le conflit Iran-Israël. Elle a demandé, Monsieur le Président, hier, on a assisté à un revers iranien. Israël est monté au filet. L'ayatollah avait envoyé plusieurs missiles, mais aucun n'a atteint son but. 99% de tirs ratés. Ça nous a rappelé les matchs de Richard Gasquet à la grande époque. Est-ce qu'on peut espérer une trêve pour les JO? Emmanuel Macron a d'ailleurs répondu positivement. Tout à fait. L'olympisme permet de réconcilier les pays en guerre. Mmh. C'est ça qu'il nous faut. Petite partie de badminton entre Poutine et Zelensky, et ça ira mieux. Alors, au sujet de la cérémonie d'ouverture, le président, il s'est voulu rassurant. Si la cérémonie ne peut pas avoir lieu sur la Seine, il y a un plan B, sur la Marne, voire un plan C, à l'Aqua Boulevard.
J'aimerais voir ça.
Ça serait fantastique, hein. Des jeux de ballons dans les piscines à bulles. D'ailleurs, il a défendu son action pour purifier la Seine, et les jeunes doivent apprendre à nager. Surtout qu'on n'a rien fait contre le réchauffement climatique et qu'en 2050, Paris sera sous les eaux. Donc c'est important d'apprendre à nager dans la Seine. Le président espère 80 médailles. De toute façon, les athlètes qui n'auront pas de médailles seront envoyés sur le front ukrainien et ils reviendront pour tenter les Paralympiques. Comme ça, on a une chance au grattage, une chance au tirage.
Arnaud, hier, on était donc à 100 jours des JO, mais aussi pile 5 ans après l'incendie de Notre-Dame.
Il est venu le temps des cathédrales.
Je vous ai épargné de le chanter moi-même. Elle est dure à faire, cette montée. Notre-Dame, un chantier qui tenait à cœur au président. C'est quand même le gros chantier de ravalement de façade parisienne depuis celle de Rachida Dati. Oh. Et la cathédrale devrait rouvrir le 8 décembre. Alors maintenant que Notre-Dame de Paris a été remise en état, il faut faire pareil avec le reste de la capitale, hein, dévastée par 10 ans d'Anne Hidalgo. Alors vous avez vu, parmi les porteurs de flammes olympiques, il y aura Baptiste. Baptiste est un, voilà, un phénomène internet.
C'est Baptiste. Ce type trop chelou qui allumait un feu dans sa chambre.
Donc voilà, il s'est fait connaître avec une vidéo virale dans laquelle il a failli foutre le feu à sa chambre. J'espère qu'on va pas le faire passer par le quartier de Notre-Dame, celui-là. Ce serait con qu'il te refoute le feu pile au moment où on termine les travaux. Macron, il pèterait les plombs s'il le voyait arriver dedans avec la torche. Mais enfin, Baptiste, tu vas foutre le feu à la baraque, t'es pas net. Et si, je suis très net. C'est sympa cette histoire de Baptiste. C'est fun de prendre des personnages cultes du web comme ça pour faire parler des JO. On devrait loger les athlètes chez Jawad.
Mais bien sûr, quelle bonne idée, on avait un problème de logement d'athlètes.
Les deux complotistes de la semaine dernière aussi, ils vont refuser de faire des abdos en disant « Non, je ne contracte pas !»
On ne contracte pas,
Apolline.
Merci beaucoup, Arnaud.
Arnaud Demange, tous les matins
avec nous. Et c'est l'heure de gagner justement. On gagne, pas n'importe quoi.
Cadeau officiel des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et on gagne des places et on l'a fait gagner ce matin à Anquin. Bonjour Anquin.
Bonjour.
Eh ben oui Anquin, félicitations, c'est vous qui avez gagné ce matin. Tout va bien? Vous êtes là? Oui, ouais, en cas, c'est pas le moment de raccrocher, hein, vous avez gagné.
Non, valait tout. Merci beaucoup.
Vous habitez où, en cas?
À Saint-Jorioz, en Haute-Savoie.
En Haute-Savoie, en cas, vous savez le principe, vous avez donc gagné d'ores et déjà quoi qu'il arrive, mais vous pouvez choisir l'épreuve. Vous avez gagné donc deux places, soit pour la finale et médaille de bronze de tennis de table. Il y aura peut-être les frères Lebrun. Ça, ce sera le 4 août à l'Arena Paris Sud, ou alors deux places pour les épreuves de natation. La finale hommes et femmes du 200 mètres nage libre, ce sera le 29 juillet à la Défense Arena. On choisit quoi, en cas?
29 juillet, la natation.
La natation, allez, le 29 allez. Juillet. Allez, c'est pour vous, Anka. On vous envoie les places. Félicitations encore, donc, Anka qui a gagné ces deux places. Il y en a encore pas mal à gagner. Vous le savez, on vous avait gardé 100 places parmi les meilleures pour les Jeux Olympiques. On vous les fait gagner encore jusqu'à demain. Vous envoyez tout de suite Paris 2024 au 732-16. Paris 2024 au 732-16. Bonne chance à tous. Et dans un instant, la politique, vous l'avez entendu, on en a débattu tous ensemble depuis ce matin. Déjà avec vous, Charles, la question du durcissement des sanctions pour les parents des enfants délinquants. Retour sur le terrain. Moi, ce que je veux entendre, c'est ce qui se passe sur le terrain avec un maire, le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, et une juge, c'est Béatrice Brugère, secrétaire générale d'unité magistrat FO. Elle dénonce déjà le fait qu'aujourd'hui, les jeunes, eh bien, ils ne sont pas suffisamment vite confrontés à la justice, à la sanction. Et leur retour donc du terrain, c'est dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV avec deux invités ce matin pour revenir sur la question de la violence des jeunes et du durcissement voulu par la justice. On va analyser ça avec vous, monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. On se souvient de votre émotion immense lorsque, dans votre commune, Chamsidine a été tabassé à mort pour ce qu'ils ont appelé un crime d'honneur. On va revenir avec vous sur ce terme que vous refusez. Évidemment. Et vous, Béatrice Brugère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale d'unité magistrat FO et vous publiez d'ailleurs un livre qui s'appelle La colère monte, la colère gronde, et vous dites qu'il y a un décalage entre la justice telle qu'elle est rendue et les attentes des Français, un véritable besoin de justice qui n'est pas assouvi. Je voudrais revenir donc sur ces annonces. Il faut apprendre aux enfants à différencier le bien du mal. Voilà ce que vous disiez, monsieur le maire, au moment de la mort de Chamsidine. Le ministre de la Justice avait dit qu'il fallait durcir la justice pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. On va y revenir, pénaliser les parents. Mais monsieur le maire, quand vous dites qu'il faut apprendre aux enfants à différencier le bien du mal, quand vous avez dit, sous le coup de l'émotion, il va falloir se réapprendre aussi, nous, à vraiment punir, à vraiment être fort, à être ferme aussi. Ce n'est pas pour être méchant avec eux, disiez-vous, c'est pour leur apprendre que dans la vie, il y a des choses bien et il y a des choses mal. On en est là.
Oui, tout simplement. C'est pour ça que le lien avec les parents est important, parce que un enfant, il naît, il a une papa, une maman, et il est pas forcément, il connaît pas forcément tout, et il y a des valeurs qu'il doit apprendre. Et encore une fois, les valeurs, c'est pas un gros mot. Et quand je dis parle de valeurs, c'est effectivement ce bien, ce mal, le respect des autres, parce que toute la vie en société, elle tourne autour de ça. Si on se respecte pas dès qu'on est à la maternelle, comment voulez-vous que plus tard on se respecte? Mais de la même façon, les parents sont aussi. Il est important aussi que les parents prennent leurs responsabilités. C'est tellement dur de voir qu'on est devant une école, devant les 21 écoles de Viry-Châtillon et de France et de Navarre d'ailleurs, parce que c'est pas spécial à Viry, que des parents arrivent à vouloir déposer leur gamin quasiment dans la classe en voiture, parce qu'il faut surtout pas qu'ils fassent 5 mètres et qu'ils se garent n'importe comment.
En fait, ça commence là.
Dangereux,
ça commence
bien sûr,
là, le respect des règles.
Comment voulez-vous que des enfants qui voient leurs parents se comporter de cette façon-là sur la route ou dans la vie puissent eux-mêmes avoir un comportement exemplaire? C'est quasiment impossible.
On parle évidemment d'une ultra-violence. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot, vous le reprendriez, monsieur
oui,
le maire.
Oui, bien sûr. Bien sûr. On voit bien comment voulez-vous comprendre qu'on donne des coups avec ses mains, avec ses pieds, dans un corps humain. Enfin, le corps humain, il est super fragile. Même un colosse, même David Douillet, même Teddy Riner, si on lui tape dessus sans qu'il réponde, forcément, à un moment donné,
il avait 15 ans, Shamseddine, et effectivement, juste après, vous aviez dit, vous aviez eu ces mots, ils l'ont massacré, oui. Véritablement massacré. Béatrice Brugère, la question des peines pour ces jeunes. Vous-même, vous le dites, il y a un décalage aujourd'hui. Les jeunes, d'abord, est-ce que vous reprendriez ce mot aussi d'ultra-violence ? Est-ce que vous...
Oui, bien sûr.
Oui.
Tout à fait. Alors après, les marginales, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux généralisations. Oui. Il existe en effet une frange de mineurs qui sont ultra violents, qui correspond de toute façon à une évolution peut-être plus globale de la société, hein, qui est une société française assez fracturée, avec des tensions très fortes. Mais simplement pour revenir sur la justice des mineurs, parfois, il y a un peu un quiproquo. C'est-à-dire que la justice des mineurs, elle a deux vocations. À la fois, la première, c'est de protéger les mineurs qui peuvent être en danger. Et on a tout ce côté-là, protection du mineur victime. Et c'est le même juge sous une autre casquette, et c'est pour ça que parfois on a du mal à comprendre un petit peu l'action de la justice. Elle est aussi là pour rappeler ce que vient de dire monsieur, tout à fait, l'interdit. C'est-à-dire qu'elle vient dire aux mineurs, lorsqu'ils dépassent les règles, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Or aujourd'hui, on a une situation qui a énormément évolué. Alors c'est sans doute lié aussi à une situation générale de la société.
Vous parlez d'une délinquance ancrée désormais beaucoup plus jeune, avec des formes beaucoup plus graves, et qu'il faut donc changer de méthode.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, au sortir de la guerre, on a eu un code, qui est l'ordonnance de 45, qui a été réformé il y a 2 ans, qui est le code de justice pour les mineurs, qui, en fait, s'est adapté à une situation qui est très différente de celle d'aujourd'hui. On était sur la reconstruction...
La justice telle qu'elle est aujourd'hui pour les mineurs n'est plus en adéquation avec la situation.
En fait, on a, et c'est pas mal, hein, d'ailleurs c'est bien, un primat de l'éducatif sur le répressif. Or, aujourd'hui, il faut prendre en compte la réalité du terrain. Et c'est ça qui manque. Et d'ailleurs, même dans l'élaboration des lois, c'est qu'on n'a pas d'analyse criminologique. On ne prend pas assez en compte cette petite marge de jeunes, en tout cas cette petite frange de jeunes extrêmement violente. Par exemple, je vous donne un exemple qui est assez intéressant, c'est que dans les statistiques, on s'aperçoit que l'augmentation la plus forte concernant les mineurs, ce sont les viols de mineurs sur mineurs par rapport aux viols des majeurs. Vous voyez, c'est une espèce d'angle mort de la pensée.
De collégiens entre eux.
Oui, et c'est même de plus en plus jeune. C'est-à-dire même beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que presque dès la maternelle, on a des agressions sexuelles.
Des agressions sexuelles dès la maternelle. Oui, monsieur le maire,
Dès la maternelle, il y a déjà des attouchements qui commencent. Alors, ce qui veut dire quand même que un enfant de la maternelle ne découvre pas ça comme ça. Quelque part, soit il y a une. Il y a quelque chose qu'il a découvert à la maison, ou quelque part. C'est pas naturel d'avoir des gestes déplacés de cette façon-là.
Mais si vous réagissez comme ça, monsieur le maire, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez une connaissance.
C'est pas tous les jours qu'on en entend parler, mais j'ai eu connaissance dans les 10 ans de mon mandat, de faits de ce type-là.
En réalité, ça va mettre sans doute en lien, c'est pour ça que je parle d'analyse et d'étude. Il faut investir le champ aussi de l'étude et de la documentation. On ne peut plus raisonner sur des principes qui ne correspondent plus à la réalité. C'est sans doute à mettre en place avec, bien sûr, une déstructuration de certaines familles, mais l'hyperviolence, sans doute, auxquelles les enfants sont confrontés, y compris sur les réseaux, l'hypersexualisation aussi, il y a sans doute la pornographie, des choses à mettre en lien, qui fait qu'aujourd'hui, on a des phénomènes qui sont nouveaux. Vous avez des nouvelles infractions aussi qui sont liées à notre époque. Le cyberharcèlement, ça n'existait pas il y a 50 ans, parce que vous n'aviez pas les moyens technologiques. Le revenge porn, comme on connaît, vous savez, des jeunes films
revenge
de
porn, dos, ce sont ces photos ou ces vidéos qui sont prises lors de relations intimes ou même de force, oui, qui sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux.
Et qui sont d'une violence inouïe, c'est-à-dire qu'on peut forcer un adolescent un peu à se déshabiller, à être filmé, et on l'envoie à toute la classe, à tout l'établissement. Vous imaginez, c'est d'une violence extrême. Donc tous ces nouveaux délits, ces retours par exemple aussi au niveau pénal, des bandes qui sont liées au narcotrafic, avec des règlements de compte extrêmement jeunes, avec quand même une présence d'armes très importante, où des mineurs utilisent des armes, voire des armes de guerre, avec des règlements de compte et des choses extrêmement barbares, hein, parfois, font qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre en compte cette nouvelle réalité criminelle. Moi, je pense qu'on a tort de le nier et on a tort sinon de la généraliser. C'est-à-dire qu'il faut ni la nier,
en fait, il faut
ni la généraliser.
Comme elles sont, oui, de ça, la manière la plus juste
en
possible.
En fait, ça concerne une petite frange de mineurs. Et puis, on a une autre difficulté aujourd'hui, si je puis me permettre après, sur ce panorama qui n'est pas toujours très réjouissant. On a aussi ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont aujourd'hui aussi un enjeu criminel, qui ne sont pas ignorés et sur lequel on n'arrive pas.
Alors, les mineurs non accompagnés, précisons bien de quoi il s'agit. Et effectivement, aujourd'hui, ils prennent une grande part des places qui sont normalement attribués aussi aux enfants placés, oui, notamment dans les foyers d'aide sociale à l'enfance. Oui. Ce sont donc des jeunes migrants, oui, sans parents.
Alors, déclarés sans parents, parce que parfois c'est pas tout à fait vrai, mais parfois ils sont pas vraiment mineurs, d'ailleurs, ça, oui, c'est la deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, c'est qu'une petite partie de ces mineurs, c'est toujours pareil, il faut être extrêmement précis, sont enrôlés aussi dans des groupes criminels qui leur font faire des délits. Il faut comprendre qu'en France...
Et là, il y a à la fois la question donc, de l'accompagnement de ces mineurs, et puis il y a la question de la justice. Exactement. Comment rendre justice, ouais, sur des mineurs qui n'ont parfois pas d'identité. Enfin, c'est très compliqué.
Hein. Mais par exemple, juste pour finir là, sur les réseaux criminels, notre code des mineurs fait que sous 13 ans, vous êtes quasiment peu redevable de la justice. C'est-à-dire que vous avez une forme d'immunité, en tout cas pénale, qui fait que des jeunes mineurs sont enrôlés dans des réseaux criminels parce qu'on les utilise. C'est-à-dire que
on
toutes nos failles...
On leur fait la basse manœuvre parce, oui, qu'on se, alors, dit...
Ils n'auront rien.
Il y a, voilà, une impunité, il n'y aura rien.
Exactement. Donc tout ça est à revoir, sans excès, mais sans non plus aveuglement.
Monsieur le maire, Béatrice Brugère a dit à l'instant, il y a une forme de barbarie. Vous-même, vous aviez utilisé ce mot. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous avez observé? Je ne parle pas uniquement du cas de Chamsedine. On sait que Viry-Châtillon est une des villes qui a été très touchée aussi par les émeutes de juillet. Vous êtes maire depuis très longtemps, mais on a l'impression que récemment, il y a eu une forme de réveil d'une colère chez vous et d'une certaine détresse.
Je ne sais pas si c'est une détresse parce que en ce qui concerne les émeutes, on a bien senti, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais ce qui était évident, c'est qu'on avait envie de casser, on avait envie de voler, on avait envie de piller, et il n'y avait aucun phénomène de société là-dedans. Il n'y avait pas de revendication, il y avait juste une envie de casser des magasins, d'aller les piller, d'aller en profiter. Quand on voit les enfants de 10, 12 ans, 13 ans qui étaient dans la rue à balancer des mortiers comme ça sur les forces de l'ordre, il y a un vrai problème.
Des profils très jeunes, sûr, des jeunes que vous connaissiez jeunes.
Non, pas forcément. D'abord parce que vous savez, ils étaient quand même tous cagoulés, parce que bien évidemment, c'est très facile de jouer les caïds, surtout quand on se camoufle et quand on est en bande. C'est plus facile que de venir en face. Vous savez, on les reçoit aussi de temps en temps, ces primos, parce qu'on parle de revoir un petit peu tout le panel de répressif pour pouvoir accentuer et puis peut-être faire plus d'exemples, parce que moi je reste persuadé qu'il faut plus d'exemples. Il faut le faire dès le départ. On fait les rappels à l'ordre qui peuvent être une des solutions pour les primo, même pas délinquants, pour les premières bêtises, on va dire.
Mais précisément, monsieur le maire, quand on découvre le profil des assassins, oui, de Chamsedine, il y a quatre hommes, quatre jeunes hommes, l'un est majeur, les autres sont mineurs, qui tous ont déjà rencontré la justice. Oui. L'un a purgé sa peine, mais les autres, et c'est ça qui est sidérant.
Ça montre bien que les peines telles qu'elles ont été ou pas appliquées, ou en tout cas avec sévérité ou sans sévérité, à l'arrivée, elles ne servent à rien. Ce qui veut dire qu'il va falloir revenir dessus, se poser la question, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça serve à quelque chose? Est-ce qu'il faut que ça soit juste plus dur? Très certainement, mais c'est peut-être pas la seule chose. Il y a peut-être d'autres idées à faire, et encore une fois, l'éducation par les parents, l'éducation...
On va revenir justement sur la responsabilité important. Des parents, mais puisqu'on évoque le profil de ces jeunes donc, qui sont mis en examen et soupçonnés d'être les assassins de Chamsedine, Béatrice Brugère, je voudrais comprendre une chose. Très naïvement, j'ai découvert à cette occasion-là que dans la justice des mineurs, il y a deux temps, il y a déjà l'attente
ça, c'est...
terrible.
Ça, c'est
je vous
infernal.
Vois lever les yeux au ciel,
c'est,
monsieur
ça,
le maire.
C'est la pire des choses, c'est justement un ado de 12-13 ans qui commet là une première faute importante, Le temps, alors vous allez être beaucoup plus calé que moi pour en parler, mais entre le moment où il commet la faute et le moment où éventuellement il va avoir une sanction, si à 6 mois c'est fini, il pourra pas mesurer, il fera pas le lien direct, c'est pas possible.
C'est d'ailleurs là-dessus que vous insistez aussi, Béatrice Bogère. Le rapport au temps, évidemment, à l'âge de 13, 14, 15 ans n'est pas le même. Mais je voudrais juste repréciser avec vous le cheminement, parce que c'est quand même un long cheminement. Il y a la faute commise, il y a l'enquête, la justice, ça prend déjà des mois. Et ensuite, il y a encore 2 temps, puisqu'il y a le moment où on dit à un jeune « tu es coupable, vous êtes coupable ». Et puis, il y a ensuite, dans un deuxième temps, la sanction. C'est-à-dire que la sanction et le jugement sont séparés. C'est quoi cette histoire ?
Sont dissociés. Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que cette question, elle a été majeure lors de la discussion de la réforme qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant, en 2021.
De la justice des mineurs.
Oui, qui s'appelle maintenant le Code de justice pour les mineurs. Notre syndicat s'était opposé à ce que vous appelez la césure du procès. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, dans la loi, peut-être réduit un peu, en tout cas, on a essayé de réduire le temps de la culpabilité, mais on a coupé le temps en deux et le temps du jugement arrive
après.
C'est
comme si on disait à son enfant, enfin pardon, parce que je veux dire la comparaison est peut-être ridicule, mais enfin c'est comme si on disait à son enfant déjà, bon, c'est pas bien ce que t'as fait, mais on en reparlera dans 6 mois. C'est ensuite, au bout de 6 mois, on lui dit, bon, je te confirme que c'est vraiment pas bien ce que t'as fait, et je te donnerai une punition, et 6 mois après, alors qu'on est
complètement dans autre chose, on lui dit, en fait,
ta punition.
Alors, en réalité, nous, on avait dit que ce système était totalement absurde, on n'a pas été écoutés, c'est là où on voit qu'il y a un problème de logiciel dans la justice des mineurs et de peut-être aussi de grandes résistances, y compris idéologiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent...
Honnêtement, c'est votre livre, il est très intéressant, Maîtrise Bougère, parce que vous allez un peu à l'encontre, effectivement, d'un certain nombre de vos collègues. C'est-à-dire que vous dites que le problème, ce n'est pas seulement un problème de moyens, c'est aussi un problème, vous avez prononcé le mot à l'instant, d'idéologie.
D'idéologie, tout à fait.
Les juges, aujourd'hui, ne rendent pas la justice telle que les Français aimeraient qu'elle la rende.
C'est-à-dire que, vous avez raison, le temps pour les mineurs, il est essentiel, mais vous avez deux écoles. Vous avez l'école qui dit il faut leur laisser le temps parce que c'est un temps de construction, et vous avez une autre école qui dit, et je suis d'accord avec vous monsieur, au contraire, la sanction n'a de sens que si elle arrive très vite dans le cheminement et dans la construction psychologique d'un mineur. Et moi je rejoins ce que dit par exemple un pédopsychiatre qui a eu l'occasion de voir ces mineurs délinquants qui s'appelle Maurice Berger, qui dit exactement la même chose en disant si la sanction est beaucoup trop tardive, elle n'a plus de sens, d'ailleurs ils l'ont oublié, et elle n'a plus la pédagogie, parce que moi je n'oppose pas pédagogie, éducatif et sanctions. Je crois qu'il y a des sanctions qui sont éducatives, et nous on est encore dans cette opposition complètement stérile qui date des années 80 et qui n'a pas de sens, notamment pour ces profils-là. Et donc, on fait les choses à l'envers. C'est pour ça que nous on dit non seulement il faut aller vite pour certains délinquants.
Culpabilité et sanctions soient à nouveau réunies.
Mais en plus, il y a un effet collatéral qui est très important, il faut que tout le monde comprenne. C'est que déjà, les juges des enfants, leurs cabinets sont saturés. Et en faisant une césure, on a rajouté 2 audiences. Et donc, pour bien faire, on fait mal. Parce qu'en fait, on a encore plus ralenti le temps de la sanction qui arrive encore plus
dans
tard.
Dans ce contexte, et je voudrais vous interroger là-dessus, la justice a décidé de renforcer la culpabilité des parents. Jusqu'à présent, donc, les parents devaient payer des amendes qui vont être alourdies. Le code pénal prévoyait 2 ans de prison possible et 30 000 euros d'amende si les parents se soustrayaient à leurs obligations légales envers leurs enfants. Désormais, si plusieurs crimes et délits sont commis par le mineur, la peine encourue par les parents sera de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Avant de vous donner la parole, monsieur le maire, j'aurais quand même une question. On va renforcer ça, mais est-ce que au moment où on se parle, la sanction telle qu'elle existait, c'est-à-dire telle que le code pénal la prévoit, est-ce qu'elle est vraiment appliquée ?
Quasiment pas. Donc en fait,
on va renforcer un truc qui déjà n'est jamais appliqué.
Mais surtout, on déplace le problème. C'est pas que moi, sur le principe, on peut discuter, pourquoi pas.
Tout ça est très théorique. Enfin, j'ai l'impression que dans les faits...
Oui, mais pourquoi pas ? Mais en réalité, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est bien les mineurs. C'est eux qu'il faut renforcer dans leur responsabilité et dans leur conscience et dans leurs sanctions. Bien sûr qu'il y a des parents qui sont défaillants. C'est toute une question même de sociologie de la société. Les juges vont pas régler tous les problèmes de la société. Donc c'est bien... On a déjà quelque chose, mais on ne l'applique pas. Donc moi, je veux bien qu'on le renforce, mais on ne l'applique pas. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas s'égarer. C'est-à-dire qu'en parlant de ça, on ne parle pas du reste. Or, le reste, c'est comment on renforce une sanction efficace pour des mineurs ultra-violents, ultra-délinquants, ultra-récidivistes, à la mesure pour stopper, parce qu'on n'y arrive pas. Si vous regardez les taux, la récidive des mineurs continue à augmenter. Donc on voit bien que notre modèle ne fonctionne pas.
Monsieur le maire, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous estimez que les parents sont effectivement responsables?
Alors ils ont déjà la responsabilité de l'éducation, je reviens dessus, parce que c'est important pour moi de... que des parents prennent conscience dès la naissance de leur enfant que c'est pas juste un jouet, que c'est un enfant et que c'est bien de l'aimer, c'est bien de l'adorer, c'est bien de lui faire des cadeaux, mais c'est bien aussi de lui expliquer la vie. La vie, c'est aussi donc de respecter et d'assumer. Et donc, il faut qu'ils assument, bien entendu. Là, on parlait de respect lorsqu'il y a des saisines, enfin tout l'arsenal qui est mis en place. Pourquoi pas? Il faut le simple fait d'augmenter ses peines, par exemple.
Mais qu'est-ce que vous observez? C'est-à-dire, est-ce que vous, monsieur le maire, vous avez vu ces dernières années des parents qui, en effet, n'assument pas leurs responsabilités? Et j'aimerais aussi que vous me parliez de la place du père. C'est-à-dire que, honnêtement, dans tous ces drames, et y compris au moment des émeutes de juillet, j'étais très frappée qu'un certain nombre de vos collègues, Béatrice Mougère, racontaient que dans les tribunaux, lorsqu'il y avait des comparutions immédiates, les premiers rangs, c'était les maires, les sœurs, parfois les copines, mais qu'il n'y avait pas de père. Est-ce que vous avez constaté ça, monsieur le maire?
Oui, c'est vrai, mais enfin, de toute façon, c'est vrai aussi, j'ai aussi croisé pendant les émeutes, à 2h du matin, des mamans avec des gamins de 10 ans, regarder et en train de filmer les émeutes pour voir ce que ça faisait, et montrer ça à leurs gamins de 10 ans, c'était quand même assez impressionnant.
Qu'est-ce que vous avez dit dans ce moment-là, quand vous étiez dans la rue?
Je les jette, je leur dis de partir ailleurs, mais c'est surtout, je leur demande, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Qu'est-ce que leur gamin fait à 10 à 2 heures du matin en train de filmer des émeutes? C'est quasiment pas possible. Mais on les voit aussi. Je les vois aussi en appel à l'ordre où les mamans viennent et la première des choses qu'ils nous disent, et que ça soit les mamans ou les papas, parce qu'il y en a de temps en temps qui viennent, c'est allez-y, hein, surtout punissez-le bien parce que ou engueulez-le bien parce que moi j'y arrive plus. Vous comprenez, il fait 1m80, moi je suis 1m60, il répond plus, il m'écoute plus. Sauf que d'abord c'est pas mon rôle, hein, les rappels à l'ordre c'est une façon quand même, parce que tout l'arsenal doit être renforcé, y compris les rappels à l'ordre. Mais il faut que dès qu'il y ait des vrais faits de délinquance, il faut impérativement qu'on mette les moyens. Ça veut dire peut-être plus de centres pour des sorties.
Oui, bien sûr. Dépassés plus que... Enfin, il y en a des défaillants, comme vous le racontiez. Mais c'est aussi des parents dépassés.
Oui. Par la violence de leurs jeunes. Sauf que s'ils sont devenus violents, c'est pas juste par un claquement de doigts. Ils sont devenus violents au fur et à mesure.
Ils sont finalement,
ils sont victimes, mais par
aussi.
Contre, ils sont responsables parce que, ou en partie responsables. Ils n'ont pas toute la responsabilité du monde non plus, mais ils sont en partie responsables. C'est pour ça que j'approuve complètement le fait de mettre des moyens pour que les sanctions soient réellement, rapidement, mais réellement effectué. Il faut vous savez, on demande aux élus aussi de faire de prendre des TIG. C'est pas anodin. Hein. Moi, je viens de signer avant-hier des travaux d'intérêt généraux qui permet à un jeune qui a, par exemple, cassé une vitrine ou quelque chose comme ça, de faire 160, 170 heures, 200 heures comme ça, à nettoyer les rues et à nettoyer les bacs à fleurs. Ça l'amuse pas du tout en général.
Mais justement, c'est très concret.
C'est concret, et de toute façon, au moins, on a la sensation qu'ils servent à quelque chose par rapport à ce
qu'ils font. Merci à tous les deux, vraiment, d'avoir pris le temps de nous dire aussi ce qui se passe sur le terrain, du côté de la justice, du côté des élus locaux. Vous êtes Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon. Béatrice Bougère, vous êtes secrétaire générale d'unité magistrat FO, et je rappelle le titre de votre ouvrage, La colère gronde. Il est 8h53, et vous êtes bien sur AMC BFM TV. Dans un instant, les grandes gueules sur RMC avec Olivier Truchot. Olivier, quel est le programme?
Eh bien, ma chère Apolline, nous allons revenir dans les grandes gueules sur le salaire démentiel de Carlos Tavares. On parle d'une somme de 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Alors certes, le patron de Stellantis a de bons résultats, mais enfin quand même, faut-il accorder autant d'argent à un seul homme? On va en débattre avec les grandes gueules du jour. Il y aura notamment Mourad Boudjelal, Barbara Lefebvre. Bref, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
À tout de suite, Olivier, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules.